Alors, le troisième voyage, j'en dirai personnellement assez peu de choses, si ce n'est pour préciser un grand moment d'abord dans l'histoire de l'expansion de l'Évangile. Nous avons vu que le deuxième voyage pouvait se résumer par le fait que l'Évangile passe en Europe. Le troisième voyage est un voyage qui va être marqué essentiellement par le réveil d'Éphèse. Éphèse, grande métropole de l'Orient, capitale de l'Asie, de la province d'Asie, c'est-à-dire ça ne correspond pas du tout, bien entendu, à ce que nous appelons aujourd'hui l'Asie, mais ça correspond à la Turquie actuelle, et qui était un centre de pèlerinage important sur le plan païen, bien sûr, à cause de la présence notamment du temple de la déesse d'Artémis d'Éphèse, qui était une vieille déesse locale qui avait été récupérée par la mythologie gréco-romaine et qui faisait que Éphèse était un centre non seulement de culte païen, Éphèse et les villes environnantes, parmi lesquelles justement Laodicée, etc., les églises dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, Colosse également, qui était proche, qui va se trouver évangélisé aussi à cette période-là, mais aussi c'était un centre mondial, on peut dire, de l'occultisme. L'occultisme, bien sûr, qui était souvent lié avec les pratiques païennes, d'autant que à cette époque-là, dans le monde romain notamment, un certain nombre de religions connaissaient un essor nouveau. Il faut dire que les vieilles religions païennes traditionnelles étaient en train de s'essouffler, étaient en perte de vitesse, et ceux qui étaient au contraire en plein essor, c'était les religions dites à mystère, c'est-à-dire des religions qui étaient centrées sur le problème du salut, dans le sens d'une survie après la mort, qui était un problème qui tourmentait pas mal les gens de cette époque-là. Et il y avait déjà, dans ce temps-là, une certaine vague d'orientalisme, un petit peu comme il y en a aujourd'hui. Ceux qui venaient d'Orient étaient auréolés d'un grand prestige. C'est ainsi que parmi les religions à mystère qui fleurissaient dans l'Empire romain de cette période-là, on trouvait le culte les cultes perses, notamment une religion qui retrouvera en Europe au Moyen-Âge, le mazdéisme, qui venait de Perse, et qui était basé sur le dualisme, desquels d'ailleurs les Grecs étaient très friands, comme nous l'avons vu, c'était un combat en quelque sorte entre le dieu du bien et le dieu du mal, qui était égaux et qui était assimilé d'une part au dieu de la lumière et d'autre part au dieu des ténèbres. On trouvait alors autour de culte de ce type, ce qui faisait justement l'attrait de ces cultes-là, c'est qu'ils étaient environnés d'une célébration de mystère. Mystère, c'est-à-dire d'une réalité cachée, secrète, qui n'était révélée qu'à l'adepte, à l'adorateur, qui, pour ce faire, devait suivre un certain nombre d'étapes initiatiques à base de rites plus ou moins appétissants. Il y avait aussi un autre culte qui était tout à fait prôné à cette époque-là, c'était le culte de Mithra. Mithra, qui était aussi un culte iranien, qui venait d'Iran, de Perse, et où Mithra, représenté sous le symbole d'un taureau, était considéré comme un dieu sauveur qui pouvait procurer la vie éternelle à ses adeptes. Et pour cela, la cérémonie initiatique consistait notamment à se baigner dans le sang d'un taureau qui avait été au préalable égorgé, etc. C'est pour ça que je dis qu'il fallait avoir du goût pour passer par ce genre d'initiation-là. Mais ça avait eu un succès terrible dans l'Empire romain en face de cette angoisse qui étreignait les hommes de ce temps-là. Et des cultes de ce type fleurissaient à Éphèse, qui était la grande métropole de l'Asie, où par conséquent se retrouvaient toutes ces nouveautés qui venaient justement d'Orient. Possible aussi qu'il y avait déjà des influences de l'Inde qui faisaient sentir aussi à ce niveau-là. En tout cas, les arts magiques étaient très très développés. Et Paul va organiser, au cours de son troisième voyage, non seulement les églises qui ont été fondées au préalable, mais également il va organiser une évangélisation systématique de l'Asie grâce à ses collaborateurs Timothée, Luc bien sûr, et puis Aquilas et Priscille. Et c'est ainsi que Paul, selon ce que nous retrouvons dans le livre des Actes, mais je n'y reviens pas, vous n'aurez qu'à relire le texte, arrive à Éphèse. Et là se produit le plus beau réveil de tout le ministère de Paul. Une puissance du Seigneur extraordinaire qui se déploie là. Une puissance tellement extraordinaire que les puissances des ténèbres qui sont nombreuses dans cette ville sont vaincues, c'est pour toi sans doute, Jérémie. Et non seulement elles sont vaincues, elles sont frappées de confusion, non seulement il y a une église extrêmement importante qui se crée dans cette ville, mais en plus de ça, ceux qui ont pratiqué ces arts magiques viennent brûler les livres, et quand on sait qu'un livre à l'époque, ça coûtait une petite fortune, on voit combien avait été profond l'œuvre de la grâce de Dieu dans le cœur de ces gens. Et à partir d'Éphèse, qui devient en quelque sorte la capitale à partir de ce moment-là de l'évangile en Asie, l'évangile va rayonner dans les villes voisines, notamment à Colosse, à Laodicée, et dans un certain nombre d'autres villes qui sont citées notamment dans le livre de l'Apocalypse comme étant des églises qui sont issues finalement de cette église mère d'Éphèse. Maintenant, c'est également à Éphèse, dans ce moment, ce grand moment de son ministère, que Paul reçoit de Corinthe de très mauvaises nouvelles. Corinthe, où il a créé autour de son deuxième voyage une église qui a été placée sur des fondements extrêmement solides, mais une ville où déjà se fait sentir la superficialité qui est la marque des gens de cet endroit, n'est-ce pas ? Et notamment un certain nombre de prédicateurs d'évangile vont venir après Paul, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal dans la vision de l'Église primitive où il y a une complémentarité des ministères, et Paul ne s'en plaint absolument pas. Mais après la prédication très austère de Paul, volontairement austère, qui avait marqué la fondation de l'église de Corinthe, vient un deuxième prédicateur qui est beaucoup plus brillant sur le plan oratoire, disons, c'est Apollos. Et disons qu'Apollos, à ce niveau-là, tape un peu à côté, dans la mesure où il n'a pas pris garde au fait que les Corinthiens sont des gens qui sont très férus de beaux discours et de rhétorique comme le sont les Grecs, et que ce qui est beaucoup plus apprécié dans son ministère par les Corinthiens, c'est davantage ses talents oratoires que ce qu'il dit. La Bible nous dit qu'en effet, Apollos avait un talent oratoire certain. Puis par la suite interviennent ce que Paul appellera carrément des faux apôtres. En effet, à la suite des décisions de Jérusalem, qui avaient été acceptées par l'ensemble de l'Église, il y a un parti le parti pharisien qui se trouve dans l'Église, ultra-judaïsant, qui lui rejette à terme finalement ces décisions qui ont été prises. Et qui, eux, ne veulent pas dissocier l'Évangile du judaïsme. Pour eux, pour pouvoir être chrétien, il faut obligatoirement, au préalable, être juif et devenir juif. Et ils voient d'un très très mauvais œil, notamment, l'œuvre de Paul. Ils accusent Paul, d'une part, de manquer le but, pour eux la priorité étant la prédication de l'Évangile aux Juifs, et en quelque sorte il dit « tu délaisses les Juifs pour les païens », et ce faisant, tu accommodes cet Évangile à la sauce des païens en quelque sorte, et tu le dénatures. Et c'était l'enjeu du Conseil de Jérusalem. Nous savons comment il a été tranché, mais outre qu'il y avait sans doute déjà dans l'église de Jérusalem, notamment autour de Jacques, une interprétation quelque peu maximaliste des décisions qui avaient été prises à Jérusalem, alors que chez Paul on avait plutôt affaire à une tendance minimaliste, mais là encore l'accord était tout à fait possible, il n'y avait pas tellement de problème. Mais par contre là où il y avait problème, c'est à partir du moment où ces gens-là refusaient même les décisions qui avaient été prises d'un commun accord, sans même chercher à en donner une interprétation maximaliste. Et déjà, apparaît dans cette église de Jérusalem, qui peut nous sembler l'église modèle, l'église idyllique, etc., des tendances de division. Vous voyez, c'est pas nouveau du tout. Quand on parle de l'église catholique, une indivise et tout ce qu'on voudra, vous savez, ça commençait vite. Hein. Des tendances de division où un certain nombre de gens se sont mis dans une sorte de dissidence larvée. D'abord parce que c'était des pharisiens. Et ils méprisaient les leaders de l'église de Jérusalem, qui étaient les apôtres. Ça s'arrange ?
Oui, ça va.
Parce que c'était des hommes simples qui n'avaient pas étudié. Et par conséquent, ils contestaient l'autorité des apôtres, y compris les 12. En plus de cela, il y avait chez ces gens-là vraisemblablement un autre élément qui intervenait. C'était l'élément nationaliste exacerbé à cette période-là au sein du peuple d'Israël. En effet, c'était la deuxième période des gouverneurs romains. Il y avait une première période qui avait culminé avec le tristement célèbre Ponce Pilate. Ce dernier en avait tellement fait qu'il avait été révoqué par l'empereur, exilé à Lyon, en Gaule, où il était mort. Et par la suite, un petit-fils d'Hérode, qui s'appelait Agrippa Ier, enfin Agrippa tout simplement, nous allons prendre le nom d'Agrippa Ier plus tard, qui était l'ami personnel de l'empereur Caligula, a obtenu de ce dernier que l'empire de Rome lui rende le royaume de son grand-père Hérode le Grand. Et il est donc devenu roi de Judée à nouveau. Il est question de lui dans le livre des Actes, dans un épisode où il ne brille pas particulièrement par ses qualités. Celui où, nous est-il dit, pour faire plaisir aux Sadducéens, il a fait décapiter Jacques, le fils de Zébédée. Non pas le frère de Jésus, ne pas confondez pas les différents Jacques, hein, c'était un nom très courant, c'est Jacob. Mais là, le fils de Zébédée, le frère de Jean, a donc été mis à mort par cet Agrippa. Dans le même temps, Pierre a été arrêté. Et Pierre allait être lui aussi exécuté lorsque, vous le savez, il a été miraculeusement délivré par un ange. Mais il est certain que pour Pierre, Agrippa était un ennemi mortel et Pierre a quitté Jérusalem. À partir de ce moment-là, il n'est plus du tout question de lui à Jérusalem. La tradition catholique veut qu'il ait quitté Jérusalem pour Rome, il aurait fondé l'église de Rome, etc. Quand nous étudions l'épître aux Romains, il apparaît clairement que cette position-là n'est pas tenable. L'église de Rome, manifestement, a été créée, n'a pas été créée par un apôtre. Elle a été créée par des juifs qui s'étaient tournés vers Jésus, au contact d'autres chrétiens. Elle a été créée spontanément par des frères, tout simplement, qui avaient entendu parler de l'évangile à droite ou à gauche, et qui se sont retrouvés dans la capitale de l'Empire, et qui spontanément se sont mis à prier ensemble. Et c'est pourquoi Paul se sent quelque peu responsable de cette église, parce que vraisemblablement, à la base de cette église, on trouve des gens qui sont de l'entourage de Paul, notamment Aquilas et Priscille qui sont cités, comme présents à Rome au moment où Paul écrit son épître. Il y avait même une maison d'église à Rome, qui était celle, la maison où habitait Aquilas et Priscille, qui servait de lieu de réunion à la communauté chrétienne de Rome. Et il est évident que si Pierre avait fondé cette église, Paul ne se serait pas permis d'intervenir comme il le fait dans l'épître aux Romains au niveau de cette église. Paul disait qu'il prenait bien soin de ne pas prêcher Jésus-Christ là où il avait déjà été nommé, c'est-à-dire d'empiéter sur le champ d'apostolat d'un autre. Et c'est pourquoi le ministère de Paul est géographiquement très, très délimité. Notamment, le ministère de Paul ne s'exercera pas en Afrique, par exemple, en Égypte. Selon la tradition, c'est Barnabas et Marc qui auraient créé l'église d'Alexandrie. Sans doute aussi abusif de le penser. Mais enfin, ce n'était pas l'ère d'apostolat de Paul. Paul ne se permettait pas d'intervenir là où un autre apôtre avait été envoyé. Et si Pierre avait été à la base de la fondation de l'église de Rome, alors Paul n'aurait pas écrit, comme il le dit, avec cette sorte de hardiesse. Mais voilà, il se trouve que dans cette église de Rome, qui s'est créée spontanément, il n'y a pas eu, en quelque sorte, de véritable ministère apostolique pour en poser les fondations. Si bien que, même s'il y a des hommes de valeur, comme l'était certainement Aquilas, même s'il y a des gens de valeur, comme ceux que Paul cite parmi les frères qui sont à Rome et auxquels il envoie ses salutations, Paul sent le besoin d'asseoir doctrinalement cette église sur un enseignement solide qu'ils ont simplement reçu partiellement, semble-t-il. Et c'est pourquoi Paul fait cet exposé doctrinal, magistral, dans cette épître qui est une épître fondamentale, où il expose ce qu'il appelle son évangile, c'est-à-dire l'enseignement qu'il donnait partout, l'enseignement de base. Et ce n'est pas sans raison que cette épître, d'ailleurs, est aussi devenue la base de la réforme, du mouvement de la réforme au XVIe siècle, parce qu'effectivement, elle est le fondement de l'évangile. Donc, où s'en est allé Pierre ? Oh, vraisemblablement, en Babylonie. C'est ce qui ressort notamment de ses épîtres. Pierre écrit à ceux qui sont dispersés en Babylonie. Pourquoi en Babylonie ? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que la Babylonie était en dehors des frontières de l'Empire romain. Depuis l'exil à Babylone, sous Nebuchadnezzar, il était resté en Babylonie une très importante colonie juive qui n'était jamais revenue à Jérusalem. Et cette communauté juive continuait à exister à l'époque des apôtres. Vraisemblablement, cette colonie avait dû être plus ou moins touchée par l'évangile déjà. Mais surtout, la Babylonie était l'endroit où les juifs qui avaient maille à partir avec l'Empire romain se réfugiaient, parce que le royaume parthe, qui occupait cette région-là, était en guerre avec Rome. Et selon le principe bien connu de tous les potentats, tout poil et de tout temps, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, tous ceux qui étaient poursuivis par les Romains qui se venaient se réfugier en Babylonie étaient les bienvenus. Et Pierre, qui était poursuivi par, non pas les Romains, mais par un allié des Romains, a certainement éprouvé le besoin de mettre un certain champ entre lui et le pouvoir romain, et a sûrement été tenté très fort de quitter les frontières de l'Empire romain et d'aller se réfugier en Babylonie, où certainement il y avait un travail sur le plan d'évangélisation très important à faire. Et lorsque Pierre écrit plus tard ses épîtres aux frères qui sont en Babylonie, nous n'avons aucune raison de penser qu'il s'agit là d'une expression symbolique, comme le veulent les catholiques, qui désignerait Rome dans un langage codé. Non, vraisemblablement, il s'agit bien de la Babylonie, et rien d'invraisemblable à ce que Pierre soit allé se réfugier là-bas. Alors se pose la question, maintenant en anticipant un peu, Pierre est-il jamais venu à Rome? Et la tradition qui veut que Pierre ait été l'évêque de Rome, donc le premier pape, et qu'il soit enterré sous la basilique qui porte son nom aujourd'hui à Saint-Pierre de Rome, est-elle exacte? Je me garderai de trancher dans un sens ou dans un autre. On peut penser que peut-être, effectivement, au début des années 60, après que les affaires se soient un peu calmées, Pierre soit revenu en Judée, et puis ensuite soit revenu carrément à Rome. C'est possible. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas été le fondateur de l'Église de Rome. Alors, cette Agrippa a duré peu de temps, 4 ans, puis il est mort brusquement, d'une crise cardiaque, nous dit Flavius Joseph, rongé par les vers, nous dit le livre des Actes, peut-être une maladie assez purulente, enfin qui l'a terrassé, en tout cas brusquement, en plein milieu d'une fête. Ce qui était considéré par l'auteur du livre des Actes comme un jugement de Dieu pour avoir persécuté l'Église comme il l'avait fait, car c'est en fait la première persécution systématique à laquelle l'Église est soumise. Oui.
Agrippa, c'était le petit-fils d'Hérode le Grand.
C'était le petit-fils d'Hérode le Grand, oui.
C'est celui qui a procédé à la construction du temple.
Voilà, et qui a été l'assassin des enfants de Bethléem, celui qui était sur le trône d'Israël au moment de la naissance de Jésus.
D'accord.
Alors ensuite, vous avez plusieurs Hérodes dans la Bible, il ne faut pas les confondre. Vous avez Hérode le Grand, donc à l'époque de la naissance de Jésus. Vous avez Hérode Antipas, l'assassin de Jean-Baptiste, qui lui était le tétrarque de la Galilée, c'est-à-dire le quart de roi, en quelque sorte.
Fils d'Hérode le Grand,
celui-là. Et vous avez Agrippa, qui lui était le petit-fils d'Hérode le Grand, mais pas le fils d'Hérode Antipas, était par une autre lignée. Et puis ensuite, vous avez le petit-fils. L'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, donc, et qui est le fils d'Agrippa Ier, qui s'appelle Agrippa II, dont il est question à la fin du livre des Actes, qui visitera Paul dans sa prison avec Bérénice, sa sœur et sa maîtresse, parce que cette Bérénice était une personne tout à fait particulière et spéciale, qui a été l'amante de son frère pendant de longues années, avant de devenir l'amante de Titus, le fameux général qui détruira Jérusalem. Vous savez comment Racine a écrit une tragédie sur ce sujet qui s'appelle Bérénice, justement. Non, voilà, il ne faut pas confondre ces 4 Hérodes là dont il est question dans le Nouveau Testament. Alors, pour en revenir à Agrippa Ier, donc il meurt brusquement, et les Romains divisent à nouveau son royaume et le placent sous l'administration directe des procurateurs. Les procurateurs de cette période-là sont des hommes qui sont originaires en général de l'Orient de l'Empire, qui sont donc des Grecs, et qui d'une part donc ont tendance à favoriser systématiquement l'élément grec contre l'élément juif en Judée, alors que les procurateurs de la première période étaient en général des Italiens qui avaient une position de neutralité relative. Ceux-là donc systématiquement prennent à brousse-poil les Juifs. Alors, le climat se tend très vite, d'autant que ce qui intéresse essentiellement ces procurateurs-là, c'est la rapine, c'est s'enrichir. C'est un petit peu, vous savez, comme dans l'histoire d'Astérix, le gouverneur qui pillait les provinces et puis qui donnait 3 petites pièces pour Rome. C'est à peu près ça. Hein. C'est tout à fait bien typé. Et des hommes comme Félix, comme Festus, dont il est question dans le livre des Actes, justement, n'étaient que des espèces de rapaces sans scrupules, qui brutalisait les populations sans aucun souci du droit ou de la justice, dans la mesure où ils s'enrichissaient, ils se remplissaient les poches. C'est pourquoi, dans ce contexte-là, d'ailleurs, le discours des accusateurs de Paul, qui font des éloges dithyrambiques de Festus, « Grâce à toi, nous jouissons d'une paix extraordinaire, grâce à la justice que tu fais régner, etc. », c'était vraiment de la basse flatterie hypocrite à un point difficilement imaginable, parce qu'il est certain que celui qui disait ça n'en croyait pas un traître mot. Félix non plus d'ailleurs. Mais enfin, ça faisait partie de la liturgie, si j'ose dire. Toujours est-il que cette situation, évidemment, crée une tension terrible entre les Juifs et le pouvoir romain, et notamment va se développer un parti que nous avons déjà découvert, qui est le parti Zélote. Les Zélotes qui sont des super hein, et qui sont des gens qui ne songent, enfin qui en fait sont arrivés à la conclusion que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui ne viendra que dans la mesure où l'on accepte d'être soumis à Dieu seul. Le royaume de Dieu, c'est être soumis à Dieu. Et par conséquent, être soumis à Dieu, ça veut dire ne pas être soumis à un roi humain, et notamment un roi étranger. Ça veut dire ne pas être soumis aux Romains, ce qui veut dire, en d'autres termes, se révolter contre les Romains. Militairement parlant, s'entend. Et ces gens-là sont animés par des visions apocalyptiques qu'on trouve par exemple dans les livres apocalyptiques dont nous avons longuement parlé déjà, les livres d'Enoch, du quatrième Ezra, le quatrième livre de Maccabée, etc., etc., d'autres encore qui nous sont vraisemblablement perdus. Vraisemblablement, les Esséniens étaient proches de ces gens-là également quand ils préparaient la guerre apocalyptique. Et ils tentaient sporadiquement de se soulever contre les Romains. Nous lisons comment les Romains, en crucifié souvent d'ailleurs, Barabbas était un ladrone, c'est-à-dire finalement un brigand, mais dans le sens où l'employaient les Romains, c'est-à-dire un zélote. Jésus a été lui-même crucifié sous l'accusation de zélotisme. Nous savons aussi que dans le livre des Actes, Paul est faussement identifié par le chef de la garnison de Jérusalem, le chef romain de la garnison de Jérusalem, comme un Égyptien qui a pris aussi la tête d'un mouvement messianique de type zélote. Et par conséquent, les zélotes qui n'avaient pas eu grande audience parmi le peuple jusqu'à une certaine époque, à l'époque des exactions des gouverneurs de la deuxième période, eh bien, se mettent à trouver un écho très très favorable parmi le peuple. D'autant qu'à l'époque de Caligula en particulier, ce dernier, qui était un homme qui devient fou, vous le savez, il avait nommé son cheval consul. Mais ça encore, c'était pas trop grave. Seulement, il avait une idée beaucoup plus saugrenue. C'est qu'il avait pensé introduire dans le temple de Jérusalem, dans le lieu très saint, une statue de lui-même. La modestie ne l'étouffait pas, évidemment. Mais ça, évidemment, c'était inacceptable pour les Juifs. Absolument inacceptable. Et le gouverneur de Syrie de l'époque, qui avait la responsabilité de la province de Judée, s'est nommé Petronius, qui lui était un homme intelligent. J'ai dit, mais s'il fait ça, c'est la révolte en Judée, c'est pas, il n'y a pas de problème. Les Juifs se feront tuer, hachés menus jusqu'au dernier, plutôt que de permettre un truc pareil. Se souvenait déjà des émeutes qui avaient été provoquées à l'époque où Pilate voulait attacher simplement des effigies de l'empereur sur les murs du temple. Alors là, Petronius s'est dit, c'est pas possible, quoi. Il a essayé de convaincre Caligula qu'il faisait vraiment une erreur. Qu'est-ce qu'il y a, ça va, il y a...
Je m'en vous bloquez,
Caligula. Caligula, oui.
C'est Caligula qui
devenait... Oui, c'est Caligula qui était fou, oui. Dresser une statue lui-même dans le lieu très saint. Alors, Petronius avait dit, mais écoute, non... C'est pas sérieux. Mais comme Caligula était fou, on pouvait toujours lui dire blanc, lui dire noir. Quand il avait une idée dans la tête, il n'avait pas ailleurs. Alors, il a fait tailler la statue, il l'a envoyée par bateau, avec ordre à Petronius de convoyer la statue en question sous bonne escorte pour l'installer dans le temple. La statue a débarqué à Akko, et Petronius était bien embêté avec ça. D'autant qu'immédiatement des délégations de juifs sont venues à Akko lui dire, écoute, si jamais tu bouges d'un seul petit doigt en direction de Jérusalem avec cette statue, c'est la guerre à mort. Alors, les juifs ont tellement discuté qu'ils ont convaincu Petronius, et Petronius a envoyé une lettre à Caligula lui disant, écoute, moi, de toute façon, je n'emmènerai pas cette statue à Jérusalem, débrouille-toi comme tu veux, mais c'est une folie, et il lui a dit, son fait tout cru, quoi. Tout en sachant très bien que, étant donné l'humeur et le caractère de Caligula, parler ainsi, c'était signer son arrêt de mort. Il a été courageux, la Pétronius. Bien lui en a pris, car entre-temps, avant que la lettre ait atteint Rome, Caligula est mort. Ce qui a vraisemblablement sauvé la vie à Pétronius d'une part, et la vie à des milliers de juifs qui se seraient opposés à ce que Caligula voulait faire. Seulement, les juifs ont gardé une grande, grande appréhension de cette affaire. Et si Caligula a voulu faire ça, qui sait si un jour un nouvel empereur tout aussi fou que Caligula n'aura pas la même idée. Et alors, les juifs se sont ralliés en masse au mouvement zélote. Et c'est la raison pour laquelle une vague de nationalisme s'est emparée du pays et un nouveau mouvement zélote en particulier a fait son apparition, c'est ce qu'on appelait les sicaires, sicari en latin, du nom d'un grand poignard recourbé qu'ils dissimulaient sous leurs vêtements, les vêtements à la romaine, vous savez, avec des grandes toges dans lesquelles ils s'enveloppaient. Et puis, ces sicaires étaient surtout actifs contre ce qu'ils considéraient comme des traîtres, comme des collaborateurs avec l'occupant romain, de ceux qui, par conséquent, empêchaient l'établissement du royaume de Dieu et l'avènement du Messie. Et ces gens-là devaient disparaître pour permettre l'avènement du Messie. Et dans les grandes fêtes, en particulier, c'est là que ça se passait, ils se mêlaient à la foule, ils essayaient de s'approcher discrètement, n'est-ce pas, de ceux qu'ils considéraient comme des traîtres, et puis au moment où ils s'attendaient le moins, ils sortaient de leur toge le poignard, poignardaient les gens, puis se mettaient à crier « Ah, l'assassin, oh là là, il vient d'être assassiné », etc., pour brouiller les pistes. Et la situation est devenue pré-révolutionnaire en Judée. À partir de cette période-là, donc sous les procurateurs, en particulier Félix et Festus, qui ont été parmi les plus mauvais que la Judée ait jamais connus. Et c'est pourquoi, dans l'église de Jérusalem, il y avait des tendances zélotes certaines. Chez cette aile ultra-judaïsante, qui était tentée par l'idée nationaliste. L'église de Jérusalem elle-même, dans cette situation-là, n'était pas à son aise du tout. Parce que s'il est vrai que cette église était parfaitement fidèle à tout ce qui était la loi juive, n'est-ce pas, notamment en la personne de Jacques, qui était un homme éminemment respecté par tous à Jérusalem, nous dit Flavius Joseph, le fait qu'il y ait eu de nombreux païens, non pas dans l'église de Jérusalem, mais à l'extérieur de l'église de Jérusalem, avec lesquels les chrétiens de Jérusalem juifs avaient des contacts et une communion posait des problèmes et faisait que les chrétiens de Jérusalem, malgré leur fidélité et leur observance, étaient considérés de travers par les zélotes. Et ils étaient souvent amenés à plus ou moins se démarquer. On les accusait d'être en relation avec des gens qui étaient des alliés des Romains, voire des Romains tout court, qui étaient convertis au christianisme. On pense par exemple à Corneille. Et par conséquent, d'être plus ou moins joué double jeu, d'être des traîtres en puissance à leur pays. Et un homme qui va vite, très vite devenir suspect dans ce contexte-là, c'est justement Paul. Car ce qui faisait problème, ce n'était pas la foi en Jésus. Ce qui faisait problème pour ces gens-là, c'était les contacts avec les non-juifs. Et plus particulièrement avec les gens qui étaient les plus proches des Romains, voire les Romains tout court. Et dans la mesure où les non-juifs devenaient nombreux à l'intérieur de l'Église, ils étaient un problème pour l'Église de Jérusalem. Alors, il y a eu toute une fraction d'Église de Jérusalem qui s'est dit, il y en a assez, il faut maintenant fermer l'Église aux païens. Sinon, nous, notre situation va devenir intenable. Et ils sont allés donc prêcher dans les églises fondées par Paul la circoncision, c'est-à-dire la conversion au judaïsme. Ils se donnaient pour des gens qui étaient au bénéfice de révélations apocalypse entre parenthèses extraordinaires. Ils se donnaient à cause de ces révélations-là comme supérieurs aux apôtres, et se dénommaient eux-mêmes archi-apôtres. Vous trouvez ça dans la deuxième épître aux Corinthiens en particulier, où Paul s'en prend à ceux que l'on traduit en général, ses apôtres par excellence. Dans le texte original, c'est archi-apôtres, c'est-à-dire supérieurs aux apôtres. Et c'est là que le premier schisme, si je puis dire, se produit dans l'église de Jérusalem, dans l'église primitive plutôt. Et notamment, ces gens-là viennent à Corinthe, sur les traces d'Apollos notamment, se donnant comme envoyé par Pierre, l'apôtre des circoncis, faussement. Et Paul le rappellera par exemple dans l'épître Galates. Ils interviennent aussi dans cette région où Paul avait prêché l'évangile, parmi ceux que ces Galates qui sont, ne sont autres que nos ancêtres les Gaulois. Car les Galates, c'était des tribus gauloises qui habitaient la région de Toulouse. Certaines peut-être même pouvaient habiter ici notre région, mais surtout la région de Toulouse. Et qui, pour diverses raisons, 2 siècles avant Jésus-Christ, avaient migré avec armes et bagages en Asie mineure, où ils s'étaient enrôlés comme mercenaires chez différents roitelets de la région. Leurs services effectués, ils avaient trouvé la région agréable, et plutôt que de retourner chez eux, ils s'étaient installés là-bas. Et ils formaient précisément le peuple galate, qui habitait et qui parlait grec, qui était totalement hellénisé à l'époque, où Paul leur a prêché l'évangile. Et ces gens-là ont été atteints aussi par la propagande de ces archi-apôtres. Ces gens qui imposaient la conversion au judaïsme comme condition sine qua non pour appartenir à l'Église. C'est également dans ce contexte que se situe ce qu'on appelle l'incident d'Antioche. L'incident d'Antioche, où Pierre s'est trouvé en conflit avec Paul, parce que précisément Pierre mangeait avec des païens, conformément à ce qui avait été décidé à Jérusalem, rien à redire. Mais arrivent des gens de l'entourage de Jacques. Et Pierre se sent mal à l'aise dans ce contexte-là, à cause de tout ce qui se passe là-bas en Judée avec ces histoires de zélotes. Alors, il tente maladroitement de ménager la chèvre et le chou. Contact avec les païens, c'est compromettant. Alors, il se lève et puis s'en va manger à part avec les seuls juifs qui sont là. Le sang de Paul ne fait qu'un tour. Pas tellement parce que Paul est impulsif, mais parce qu'il a compris l'enjeu. Accepter ça, revenir dans les faits sur les décisions de Jérusalem, c'est briser l'unité de l'Église. C'est créer 2 églises, une église des juifs et une église des païens. Ça, c'est inacceptable. Paul luttera toute sa vie pour conserver l'unité du corps de Christ entre juifs et païens. Et dans sa lettre aux Éphésiens, la vision de l'Église est claire. L'Église, pour lui, c'est les juifs et les païens unis en Jésus-Christ. Alors là, publiquement, il résiste à Pierre. Il dit, Pierre, c'est pas... D'abord, c'est de l'hypocrisie ce que tu fais, parce que tu as été avec les païens il y a quelques instants. Je t'ai vu, j'étais avec toi, pas la peine de le cacher. Conduite tout à fait hypocrite. Deuxièmement, c'est une conduite inacceptable parce que là, tu donnes raison à des gens qui veulent diviser l'Église. Et Pierre, avec beaucoup d'humilité, accepte cela. Et Paul reviendra souvent sur cet incident pour montrer précisément que ceux qui se réclament de Pierre pour diviser l'Église sont en porte-à-faux avec lui. Et c'est ce qu'il fait aux Galates en particulier. Quant aux archi-apôtres, alors il est certain qu'il y a un conflit terrible entre eux et Paul. Pour eux, c'est pas compliqué, Paul n'est pas du tout apôtre. Paul n'est qu'un usurpateur qui enseigne des doctrines erronées. Et vous savez comment ces gens-là vont réussir à ébranler l'autorité de Paul dans l'esprit des Corinthiens, au point que Paul va être obligé de leur écrire. Il apprend ce qui se passe en plein réveil d'Éphèse. Et il leur envoie une lettre extrêmement sévère. Une lettre qu'on a perdue. Une lettre extrêmement sévère dans laquelle il remet les choses au point. Et puis, il se dit dans le fond, qu'est-ce que ça va donner ? C'est qui tout double ? Paul joue gros, là. Ou bien l'église de Corinthe rentre dans l'ordre, ou bien c'est la dissidence. Et à ce moment-là, l'église éclate. L'église universelle. Et Paul envoie ses collaborateurs, finalement, match nul. Il n'y a pas de décision claire dans un sens ou dans un autre. Mais les Corinthiens acceptent de jouer encore un peu le jeu et ils envoient à Paul une série de questions sur des sujets qui les préoccupent. Paul aussi leur dit un certain nombre de choses quant à leur attitude. Et c'est notre premier épître aux Corinthiens. Et là, Paul attend. Que va-t-il se passer après cette lettre ? Et voilà qu'il a la joie de voir que cette lettre sévère a porté. Les Corinthiens se repentent. Alors, il envoie une deuxième lettre, la deuxième épître aux Corinthiens, une troisième en fait, dans laquelle, cette fois-ci, il abat ses dernières cartes et il nettoie le terrain complètement. Il cisaille complètement ses adversaires. Mais il est obligé d'aller loin, de rappeler son apostolat, de rappeler sa vocation, de rappeler ses œuvres, de rappeler ses visions vis-à-vis de ces gens qui se targuent de révélations de type apocalyptique. Et moi aussi, je pourrais me vérifier, je connais un homme qui, etc. Et enfin, la dissidence corinthienne rentre dans l'ordre. Mais s'en est fallu d'un cheveu, d'un poil que ça ne bascule. Et là, Paul, dans cette joie extraordinaire qui était la sienne au milieu de ce magnifique réveil d'Éphèse, a eu bien du souci avec cette église de Corinthe, et il le rappellera plus d'une fois, combien la crise corinthienne a été une crise extrêmement grave dans son ministère et dans sa vie. Mais les adversaires de Paul n'ont pas désarmé. Et maintenant, ces gens-là sont en cheville, non seulement avec les Zélotes qui sont à Jérusalem, mais également avec les Juifs non-croyants qui se trouvent en Asie elle-même. L'Asie, nous l'avons dit, c'est un foyer d'agitation. C'est un foyer d'agitation aussi sur le plan juif. Parce que ces gens, qui sont marqués par le contexte un petit peu ésotérique et mystique de la population païenne, sont friands aussi de toutes les apocalypses juives. Donc de tout ce qui fait la nourriture spirituelle des Zélotes. Et les Juifs d'Asie sont très marqués par le zélotisme. Alors ils peuvent pas avoir Paul. Et vous savez comment ils vont finir par fomenter cette émeute des orfèvres, où Paul va être chassé d'Éphèse et va devoir quitter la ville en catastrophe. Mais les adversaires de Paul n'ont pas désarmé. Ils sont décidés à l'abattre, coûte que coûte. Paul est conscient qu'il est poursuivi par cette vindicte, par cette haine de ces hommes. Ces hommes qu'il dénoncera, par exemple, dans c'est l'épître aux Éphésiens, je crois, quand il parle de ces Juifs qui empêchent les païens de se convertir, qui sont ennemis de tous les hommes, et que l'Église du Moyen-Âge a attribué à tous les Juifs de tous les temps, alors que Paul visait une petite catégorie de Juifs bien particuliers qui étaient ses adversaires à lui, les Juifs d'Asie. Et Paul est conscient que ça finira mal pour lui. Le Saint-Esprit l'en a averti. Et Paul décide alors de rentrer à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, pour se dédouaner en quelque sorte des accusations fausses qui courent sur son compte, des calomnies qui commencent à porter leurs fruits, y compris dans les propres églises qu'il a fondées. Vous voyez, quand on regarde ça de l'intérieur, l'église apostolique, l'église primitive, idyllique. On se rend compte que c'était loin d'être aussi idyllique que ça. Hein. Alors, pour cela, il va montrer qu'il est un bon juif. Il fait un vœu de Naziréat, et pour ce faire, se laisse pousser la chevelure, et au bout du temps qu'il s'est fixé pour ce vœu de Naziréat, il doit se couper la chevelure et offrir un sacrifice dans le temple de Jérusalem. Enfin, vous connaissez les textes dans l'Ancien Testament. Et Paul a décidé de faire ce vœu le jour de la Pentecôte, le jour où il y aura beaucoup de monde, pour que tout le monde sache que Paul est un bon juif et qu'il reste un bon juif, contrairement à ce qu'on dit de lui. Et il va donc s'embarquer. Mais auparavant, il veut encore se dédouaner vis-à-vis de ceux qui, parmi les frères, le suspectent à Jérusalem, parce qu'il sait que dans l'église de Jérusalem même, il n'a pas que des amis. Et il veut montrer que même si les païens restent païens tout en étant chrétiens, ces derniers sont unis avec l'église mère de Jérusalem. Et Paul ne va pas aller à Jérusalem les mains vides, mais après avoir organisé dans toutes les églises qu'il a fondées une collecte qu'il veut le plus abondante possible, comme témoignage de gratitude des païens vis-à-vis de l'église juive, et signe de communion, au sens fort du terme, koinonia, c'est-à-dire le partage. Les païens ont partagé les richesses spirituelles d'Israël, alors ils vont faire en sorte maintenant qu'Israël partage leurs richesses matérielles. Et Paul, donc, accompagné de compagnons, pour qu'on ne puisse pas l'accuser de malhonnêteté, parce que Paul est devenu méfiant, ou prudent plutôt, méfiant non, mais prudent sûrement, part pour Jérusalem. Il fait une dernière escale à Milet. Je m'y prenais garde, car après mon départ, je sais que des loups ravisseurs s'introduiront au milieu de vous et qu'ils n'épargneront pas le troupeau. Et Paul sait bien de qui il parle quand il évoque ces loups ravisseurs. Ce sont justement ces éléments-là, ces archi-apôtres. Ils n'épargneront pas le troupeau. Et puis après avoir pleuré, prié, etc., eh bien, Paul s'embarque pour Jérusalem. Il commence par débarquer à Tyr, où il est reçu dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui s'est installé là-bas. Puis, où Ptolémaïs, Acco, qui avait pris le nom de Ptolémaïs à l'époque, et là, il se met en route pour Jérusalem. Et, arrivant à Jérusalem, il va s'entretenir avec Pierre, avec Jacques, avec les autres apôtres, pour éclaircir la situation, pour qu'ils ne puissent plus l'accuser en rien, et que finalement les apôtres, les chefs de l'église de Jérusalem, lui renouvellent leur confiance de manière publique, et que l'on sache qu'entre Paul et les églises qui dépendent de lui et les autres apôtres, la communion est complète et totale. Tu dis quelque chose, Philippe ? Mais auparavant, vous savez le texte, comment Agabus était descendu. Déjà, les filles de Philippe, qui avaient le don de prophétie, avaient annoncé que Paul allait être lié, arrêté à Jérusalem, et Agabus vient confirmer cette prophétie. Et voilà finalement ce que les apôtres demandent à Paul. Ils disent, eh bien écoute, frère, tu vois, c'est magnifique ce qui s'est passé parmi les païens, on se réjouit beaucoup de cette affaire. Mais d'un autre côté, l'Esprit de Dieu n'a pas non plus pour autant cessé de travailler au milieu du peuple d'Israël. Ici, il y a aussi des foules, des multitudes de juifs qui ont cru. Et puis, ils ont cru en Jésus-Christ, mais ils sont zélés pour la loi. Et le mot zélé, là, dans ce contexte historique, est chargé d'une certaine connotation. Zélés, ne sont-ils pas aussi zélés pour finalement la cause d'Israël, la cause des zélotes? Alors voilà, on entend dire de toi des choses, on sait bien que c'est faux, nous, parce que nous, on a confiance en toi, on te connaît, Paul. On sait que tu as reçu une vision de Dieu, on a confiance en toi. Et chaque fois qu'on en a eu l'occasion, on t'a défendu auprès de ces gens-là en disant que tout ce qu'on racontait sur ton compte était faux, que tu n'enseignais pas aux Juifs de rejeter leur judaïsme. Tu disais simplement que les païens n'avaient pas à devenir juifs, ça, c'est clair. mais qui n'a jamais enseigné aux juifs qu'ils cessent d'être juifs. Alors, pour montrer qu'il en est bien ainsi, eh bien, comporte-toi en juif aux yeux de tous, pour que tout le monde sache que tout ce qu'on entend dire de toi est faux. Paul dit, mais ça tombe très bien, c'est justement pour ça que je suis venu, justement un vœu à accomplir, et demain j'ai accompli mon vœu, donc je vais offrir le sacrifice prévu. Très bien, magnifique, il n'y a qu'à faire comme ça, et tout sera parfait. Seulement, voilà, c'était sans compter sans ces fameux juifs d'Asie, adversaires de Paul qu'il avait suivi à la trace comme des hyènes acharnées à sa perte. Et alors que Paul est en train de vaquer sur l'esplanade du temple pour offrir les sacrifices prévus, ces gens-là le reconnaissent. Et non seulement ils le reconnaissent, mais ils l'ont vu quelque temps plus tôt avec Tite, qui, comme chacun sait, était un non-juif. Il y avait, dans le temple de Jérusalem, différents stades. Il y avait l'esplanade, qui correspond aujourd'hui à l'esplanade de la mosquée, qu'on appelait le parvis des gentils. Ça veut dire que n'importe qui, juif ou non-juif, avait le droit de déambuler dans cet espace-là. C'était là qu'on trouvait les tables d'échangeurs, on trouvait les animaux qu'on avait besoin d'acheter pour les sacrifices, c'était là que se passait tout le business contre lequel Jésus s'était élevé en son temps. Puis au-delà, on entrait dans le sanctuaire proprement dit. Et là, il y avait une inscription qu'on a retrouvée dans les fouilles archéologiques d'ailleurs, en grec, en latin et en hébreu, avertissant que tout non-juif, tout incirconcis, qui franchirait cette porte, serait mis à mort. Seuls les Juifs avaient le droit d'entrer dans ce parvis. On appelait à cause de cela le parvis d'Israël. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, parle du Seigneur Jésus qui, dans sa chair, a détruit le mur d'inimitié, la séparation qui faisait que Juifs et non-Juifs ne pouvaient pas être ensemble dans la présence du Seigneur, parce que c'était ça. Les païens ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. La présence de Dieu qui était dans le sanctuaire. Et ces gens-là s'imaginent, les juifs, que Paul, qu'ils estiment capable de tous les coups, s'ils finissent par croire à leur propre mensonge, a fait rentrer Tite dans la cour interdite, dans la cour d'Israël. Alors il trouve scandale à l'émeute, non seulement Tite est passible de mort, d'ailleurs on ne sait pas ce que Tite, il n'était pas avec Paul, heureusement, quand bien lui en a pris, parce que sans doute qu'il n'en serait pas resté grand-chose. Mais Paul, cet homme qui a commis ce sacrilège, qu'il soit mis à mort sur le champ, comme le peuple, comme la législation du temps permettait de le faire. Un homme qui était surpris, même si c'était un Romain, les autorités du temple avaient le droit de le faire mettre à mort sur place, et à l'heure même, sans jugement. Et c'est ce qu'il s'apprête à faire avec Paul. Bon, c'était la fête de Pentecôte, une des trois grandes fêtes, au cours desquelles le gouverneur romain qui habitait Césarée en temps normal venait à Jérusalem parce que la foule des pèlerins permettait des émeutes, et notamment on n'était pas jamais tranquille avec ces fameux sicaires, d'autant que ces derniers temps il y avait eu plusieurs émeutes zélotes qui avaient été réprimées, dont celle d'un Égyptien sur lequel on était encore, sur la trace duquel on était encore. Bon, alors si jamais ces gens-là avaient l'intention de faire un mauvais coup pendant la fête, il valait mieux être sur place. Et les troupes romaines, il y avait le gouverneur habitait le palais d'Hérode, mais les troupes romaines étaient dans l'Antonia, c'est-à-dire la forteresse qui flanquait le nord du temple et qui permettait de dominer. Depuis les terrasses de l'Antonia, on voyait tout ce qui se passait dans le temple. Et soudain, il y a un attroupement là-bas, il y a une émeute, ça crie, ça vocifère, ça y est, l'émeute est partie. Immédiatement, le tribun intervient pour faire cesser l'émeute. Il se rend compte que ce n'est pas une émeute du tout, mais que c'est un homme qu'on va mettre à mort. Et puis cet homme proteste en disant que il n'a fait entrer personne l'espace interdit. Et qu'en plus de cela, notre homme s'imagine avoir affaire à l'Égyptien qu'il recherche, et avant qu'on le mette à mort, il veut tout de même l'interroger pour connaître ses complices. Il le fait rentrer à l'intérieur de la forteresse Antonia, où il s'apprête à lui donner la question, cette aimable institution qu'on retrouve jusqu'au Moyen-Âge, qui consistait à torturer un prévenu pour le faire parler. Mais auparavant, Paul demande à parler. Et non seulement il se met à parler à la foule, mais il se met à lui parler en langue hébraïque, c'est-à-dire en araméen. Alors, le tribun était surpris, mais tu n'es pas cet égyptien, alors que, non, j'ai rien à voir. Et Paul donne son témoignage sur les degrés de la forteresse Antonia. Et la foule l'écoute jusqu'au moment où il dit, je t'enverrai vers les païens. Ah, voilà le mot qu'il fallait pas dire. Je t'enverrai vers les païens. Oh, crucifie-le, c'est un scandale. Un tel homme n'est pas digne de vivre. Les zélotes réagissent, les zélotes qui sont dans la foule. Aller vers les païens, non, c'est pas possible. Et l'émeute grandit tellement que le tribun est obligé de faire enfermer Paul à l'intérieur pour calmer les esprits et disperser la foule. Alors il s'apprête à lui donner la question avec le fouet. Paul lui dit, mais je suis citoyen romain, tu n'as pas le droit de me frapper. Alors, nouvel étonnement, nouvel échange entre Paul et le tribun. Et finalement, le tribun se rend compte que il a affaire ici à une machination de type zélote et qu'il est décidé à sauver Paul de la main des zélotes. Mais les zélotes ne veulent pas que leur proie leur échappe de cette manière-là. Et c'est tout à fait dans le tempérament des zélotes, on voit ça très souvent dans les écrits de Joseph et dans les écrits semblables. Un certain nombre d'entre eux font le serment de ne rien manger jusqu'à ce qu'ils aient assassiné Paul. Et comme ils ont réussi à savoir par des complicités que le tribun va transférer Paul pour le faire comparer devant le Sanhédrin, eh bien ils sont décidés à le poignarder, selon leur coutume, comme ils ont l'habitude de le faire, en cours de route, en provoquant une espèce d'émeute. Malheureusement pour eux, le neveu de Paul, qui habitait Jérusalem, donc sa sœur aussi à Paul habitait Jérusalem, avant de l'affaire, et avertit Paul, qui lui-même avertit le tribun. Alors qu'est-il arrivé à ces malheureux qui avaient fait le serment de ne pas manger jusqu'à ce que Paul soit tué? Je suppose qu'ils ont dû mourir de faim, s'ils ont été fidèles à leur serment jusqu'au bout. En tout cas, Paul a échappé à leurs mains grâce à cela. Paul va comparaître devant le Sanhédrin. Paul est un malin. Enfin, il a la grâce de Dieu, bien sûr. Mais c'est un sage. Et Paul sait, pour en avoir fait partie lui-même, comment est constitué le Sanhédrin. Il est constitué moitié-moitié de Sadducéens et de Pharisiens. Il sait bien que parmi les Pharisiens, parmi les Sadducéens, et entre les Pharisiens et les Sadducéens, plutôt, il y a un contentieux terrible, c'est l'histoire. Enfin, il y a beaucoup de contentieux, en fait. Mais il y a un point, en tout cas, particulièrement sensible, c'est la question de la résurrection. Et dès que vient son tour de parler, Paul intervient en disant, bien, c'est à cause de l'espérance. Je suis pharisien, et c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement devant vous. Ça y est, il a lancé la pomme de discorde au beau milieu de l'assemblée, et aussitôt, les pharisiens et les sadducéens commencent à se disputer entre eux. Les Sadducéens prenant le parti contre Paul, et les Sadducéens disant « Mais non, mais cet homme, il n'a rien fait de mal, peut-être même qu'un ange lui a parlé, c'est un envoyé de Dieu. » Là, nous retrouvons déjà à nouveau cet appui que les pharisiens quasi systématiquement donnaient aux chrétiens à la première période. On a déjà vu ça avec Gamaliel. Et Paul échappe encore ce jour-là à ses détracteurs. Mais il comprend également que ça ne durera pas. Et que pour en échapper, il n'a qu'une seule solution, faire valoir son titre de citoyen romain. Il dit, après tout, j'ai rien fait contre la loi. Si je suis coupable, je demande à être traduit devant les autorités romaines. Ça va lui sauver la vie. Mais d'un autre côté, ça va donner en quelque sorte raison aux zélotes qui disent que les chrétiens sont du côté des Romains et contre les ennemis. Et sont partis du côté des ennemis de la nation juive. Et ça aura des conséquences néfastes pour l'église de Jérusalem, cette intervention de Paul. Sans doute il fallait que ça soit ainsi également. Et notamment, voyant Paul leur échapper, les zélotes vont s'en prendre à Jacques. L'évêque de Jérusalem, ou le pasteur de Jérusalem, comme vous voulez. Homme pourtant qu'on ne peut pas accuser d'être infidèle à la loi juive, Et après l'avoir torturé, ils le mettront à mort, soit par lapidation, dit certaines traditions, soit après l'avoir précipité du haut du temple. Et Flavius Josèphe dira que ce crime abominable commis par les Zélotes sera celui qui provoquera la destruction de Jérusalem quelques années plus tard, car on est à la veille ici de la destruction de Jérusalem. Et c'est ainsi que Paul va se retrouver en prison, à Césarée, en attendant le bon vouloir de ce monsieur Félix et de ce monsieur Festus, qui sont les gouverneurs locaux, et qui évidemment se soucient bien peu du droit et de la justice, voire un nouveau prisonnier qu'ils vont pouvoir exploiter au point de vue financier, c'est la seule chose qui les intéresse. Et on verra la prochaine fois les démêlés de Paul devant le pouvoir romain.